Vous êtes sur Radio B, les bonnes ondes, 90.0, avec Paul Turchet et Bruno Point dans l'émission Musique au pluriel. Après une émission sur les stars du music hall, puis sur l'icône Maria Callas, la grande soprane du XXe siècle, nous voici aujourd'hui dans un autre répertoire, celui du piano, avec, on peut dire aussi, une véritable icône, Vladimir Horowitz, qui aura marqué de son empreinte le XXe siècle et dont la personne est restée éminemment célèbre et qui a eu une carrière, nous le verrons, à la fois flamboyante avec des trous, mais qui a marqué l'histoire du piano. Encore une fois, comme pour Maria Callas, parlons d'icône, car la société a retenu cela à deux. Ils ont marqué de leur empreinte leur art, mais ils ne sont pas les seuls. Donc il ne s'agit pas de dire que Vladimir Horowitz est le plus grand pianiste du XXe siècle. Je pense qu'on peut dire ça de Franz Liszt. Nous avions fait plusieurs émissions sur Franz Liszt, qui a probablement été le pianiste du XIXe, mais Liszt était un grand compositeur et un immense musicien. Donc il y a eu beaucoup de grands pianistes, beaucoup de bons pianistes, beaucoup de grands musiciens. Il n'en reste pas moins que Vladimir Horowitz, né en 1903, juif russe, qui, nous le verrons dans son itinéraire, va rapidement quitter la Russie, qui est devenue soviétique. Donc Vladimir Horowitz a marqué et avait une forte personnalité et a vraiment joué du piano avec singularité. Eh bien, commençons par un morceau de Chopin, un nocturne, lors d'un de ses grands concerts.
Thank you. Horowitz, né le 1er octobre 1903 à Kiev, en Ukraine, et sa famille appartient à la bourgeoisie juive cultivée d'Ukraine. C'est une famille de musiciens. On connaît des musiciens, Anton Rubinstein, on connaît Scriabine, à qui Vladimir sera présenté. À 3 ans, 4 ans, il commence à apprendre le piano avec sa mère d'abord, qui est une très bonne pianiste, et ensuite il entre au conservatoire de Kiev pour suivre un enseignement avec de grands professeurs. En 1914, je le disais, on le présente à Alexandre Scriabine, qui va déceler en lui le germe d'une grande carrière. Et malheureusement, avec l'arrivée des communistes, la famille Horowitz, qui était heureuse et prospère, est, comme d'autres, totalement brisée. Pendant cette terreur, Volodia, c'est son surnom, était en dernière année au conservatoire de Kiev, et pour son récital de fin d'études en 1920, avec un programme géant, tous ses professeurs et le jury se sont levés pour l'applaudir. Ce qui ne s'était jamais produit auparavant dans toute l'histoire du conservatoire. Il a 17 ans, il donne son premier concert à Kiev en 1921 et il rencontre Nathan Milstein, très grand violoniste, qui restera toute sa vie un grand ami. En 1925, il quitte l'URSS pour l'Allemagne, donne un récital à Berlin et on le surnommera après cela l'ouragan des steppes. Il aura beaucoup de surnoms, le Satan du clavier, le roi des pianistes, le sorcier, etc. Et donc, il se produit à Hambourg. Vous allez écouter l'œuvre qui a fait naître sa célébrité en Allemagne, puis ensuite dans le monde. C'est le premier concerto de Tchaïkovski qu'il interprète sous la direction d'Arturo Toscanini, ce grand chef italien qui deviendra son beau-père, puisqu'il épousera la fille de Toscanini, dans le premier concerto donc de Tchaïkovski.
Thank you.
une émission sur Vladimir Horowitz doit obligatoirement comporter ce concerto, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un des piliers du répertoire. Vous l'aurez remarqué, c'est extrêmement brillant, c'est extrêmement difficile, et aussi avec des passages d'un très grand romantisme. Donc tout l'art du pianiste, à la fois la technique, la fulgurance, et à la fois l'art du legato et la beauté des phrases, doit s'exprimer. Horowitz l'a beaucoup joué toute sa vie. C'est donc la première raison. La seconde, c'est que là, nous avons écouté, nous avons brûlé les étapes, un enregistrement mythique qui a été fait avec Arturo Toscanini. Et là, on a la confrontation de deux immenses personnalités. Car quelque part, pour marquer l'histoire des arts, nous le voyons au fil de nos émissions, il faut bien sûr beaucoup de talent, il faut quelquefois du génie, mais il faut aussi une forte personnalité. Et là, nous en avons deux. Vladimir Horowitz, petit homme en apparence plutôt effacé, mais dès qu'il est sur la scène, le piano et le public lui appartiennent. C'est lui qui commande, il a une autorité fulgurante. Quant à Toscanini, c'était un grand personnage dans la mesure où c'était un Italien qui a osé refuser à l'époque Mussolini jusqu'à quitter l'Italie pour s'installer aux États-Unis et devenir un des opposants majeurs de Mussolini. Donc ce sont des gens qui ne faisaient pas les choses à moitié. Et la troisième, elle est historique, c'est que Horowitz a lancé sa carrière en Allemagne, Paul le disait, par un phénomène du hasard, mais le hasard en général se fabrique. Horowitz était donc un très bon pianiste, un jeune pianiste, 23-24 ans, et il avait un programme de concert en Allemagne tout à fait discret, il n'était pas connu. Et un soir, une grande pianiste est souffrante et il doit remplacer, on le prévient à 18h, il doit remplacer la pianiste dans le concerto de Tchaïkovski. Le chef d'orchestre le reçoit avec beaucoup de condescendance, lui dit « voilà comment vous allez faire ». Le pauvre chef d'orchestre a été totalement dépassé parce que c'est pas lui qui a commandé, mais c'est Horowitz qui a joué, comme vous venez de l'entendre, avec Toscanini, et a emporté l'orchestre qui a dû le suivre. Et ce qui a suivi, par contre, c'est le public et la presse. À tel point que les trois concerts que devait donner Horowitz dans une petite salle sont devenus trois concerts dans la grande salle dès le lendemain. Donc voilà, on a là une forte personnalité qui s'exprime très bien dans le concerto de Tchaïkovski. Cette première période de sa vie était en Allemagne, puis il arrive à Paris, où à Paris il est déjà un petit peu connu du fait de ses succès en Allemagne. Et là, il va rencontrer toute l'intelligentsia culturelle. Il va rencontrer Poulenc, il va rencontrer Ravel, et il va donner des concerts et il va marquer son ambivalence, c'est-à-dire une très grande qualité musicale et puis en même temps une virtuosité transcendante. Et il s'est rendu fameux à Paris avec des variations sur un thème de Bizet, Carmen, très populaire, où là, vous allez voir un piano effectivement très brillant. Thank you.
Après être resté peu de temps en Allemagne, à peine 2 ans, il s'embarque pour les États-Unis en fin d'année 1927 et donne son premier concert américain. Et on peut deviner ce qu'il joue. Il joue le premier concerto de Tchaïkovski. Dans la salle, d'éminents pianistes, Bruno Moïsevitch, Joseph Hoffmann et Rachmaninov, dont il deviendra évidemment l'ami et un des interprètes favoris, constants et brillantissimes. Il rencontre Arturo Toscanini l'année suivante, et vous le savez déjà, il épouse Wanda, la fille de Toscanini. Et il fera, pendant toute cette période américaine, bien sûr, des trajets pour revenir jouer en France, où Bruno l'a dit, il rencontre toute l'intelligentsia artistique. Il donnera une trentaine de concerts en France, mais il s'installe donc durablement aux États-Unis, avec des interruptions de carrière liées à des accès de dépression, des interruptions de carrière qui sont longues. Par exemple, de 53 à 65, il ne joue plus en public. Il fait des enregistrements à domicile, par exemple, de 69 à 74, etc. On le retrouve à Carnegie Hall pour un récital qui est intitulé « Pour les Européens » en 1977, et il va interpréter le troisième concerto de Rachmaninov, qui sera, comme Tchaïkovski, une de ses œuvres emblématiques. Écoutons-le pour trancher un petit peu et faire contraste dans une sonate, une courte pièce de Scarlatti, la sonate K380, où vous allez mesurer le génie pianistique de Toscanini d'Horowitz, avec ce legato magnifique, ce lien entre les notes, ce staccato qui permet d'avoir des interruptions, des notes qui sont très, très rapidement frappées, sur un piano très léger, qui était toujours préparé avec soin, avec un allègement des touches et de l'enfoncement du clavier, qui lui permettait, puisqu'il jouait les doigts à plat, qui lui permettait d'effleurer les touches et de faire du son. Voilà Scarlatti. Thank you.
Notre monde d'aujourd'hui est un monde violent avec des gens qui doivent s'expatrier avec des pays en crise. C'était déjà le cas au début du XXe siècle et nous avons vu que Vladimir Horowitz rencontre, lui, russe, juif russe, qui quitte la Russie, rencontre Toscanini, italien, qui quitte l'Italie pour marquer son opposition farouche à Mussolini. Eh bien, Horowitz, ainsi que Paul l'a dit, va rencontrer aux États-Unis un autre expatrié, Serge Rachmaninov, très très grand pianiste russe, qui a lui aussi quitté la Russie soviétique, et qui aussi, comme Horowitz, aura des moments de grande dépression, des moments de grande nostalgie, des moments où il doutera de son art. Ils se rencontrent tous les deux, ils sont présentés, ils se connaissent de nom bien sûr, et ils se rencontreront dans les studios des pianos Steinway, où Horowitz jouera en présence de Rachmaninov, qui tiendra la partie d'orchestre au piano, son troisième concerto. Et il faut savoir qu'à l'époque, et toute sa vie, Rachmaninov était un très 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 grand pianiste. Avant même d'être un compositeur, il était un immense pianiste. Et donc il a su reconnaître chez Horowitz quelqu'un de sa trempe au niveau de la qualité du piano. Et nous allons donc écouter une des œuvres qui fut une des œuvres phares de toute la vie d'Horowitz, le troisième concerto qu'il a joué de multiples fois. Et nous écouterons la fin du premier mouvement qui démarre par la cadence. La cadence, c'est le moment où le piano fait une synthèse de tout le premier mouvement et joue seul. L'orchestre s'interrompt et le piano fait donc une synthèse, j'allais dire un pot-pourri, ce n'est pas tout à fait ça, mais en tout cas condense tout le premier mouvement en jouant seul pour que l'orchestre le rejoigne et conclue le premier mouvement.
Toute sa vie, Vladimir Horowitz, après avoir fui le communisme, emporte dans ses bagages, dans son esprit et sous ses doigts, sa patrie, la Russie. Il, je l'ai dit, rencontrera Scriabine, à qui il est présenté alors qu'il est encore préadolescent, à l'occasion d'un concert de Scriabine à Kiev. Et il raconte que Scriabine dit à sa mère, après avoir entendu le jeune Vladimir, « Il fera un très bon pianiste, mais il doit apprendre d'autres formes de musique, la peinture, la danse, le jazz, absolument tout. » Vladimir aura parfaitement compris la leçon. Il fera connaître des compositeurs russes, il jouera aux États-Unis, Prokofiev, Kabalevski et les autres que nous connaissons déjà, Tchaïkovski, bien sûr, Rachmaninov. Cette rencontre avec Scriabine est tout à fait déterminante. Il en parlera d'ailleurs lorsqu'il reviendra à Moscou à la fin de sa vie. Écoutons l'étude d'opus 8, numéro 12 de Scriabine, toujours magnifique.
Thank you.
Ce qui est marquant dans le jeu d'Horowitz, dans l'œuvre que nous venons d'écouter, c'est la construction, la mise en scène, le sens du théâtre. Nous avons là une œuvre avec, j'irais assez courte, avec plusieurs passages, et il en fait presque une sonate, c'est-à-dire que l'œuvre est construite avec des moments où il ralentit, des moments où il accélère, des moments où il fusionne tout. Donc on a dans son art en particulier le sens de la construction avec beaucoup d'autorité. Après, il y a aussi un immense sens du legato, c'est-à-dire le chant. Et nous allons maintenant l'écouter dans Bach Busoni, Bach donc un choral pour orgue transcrit par le grand pianiste aussi et compositeur Ferruccio Busoni, qui a transcrit beaucoup d'œuvres de Bach qui n'étaient pas initialement écrites pour le piano. Et là, on a une autre facette de l'art d'Horowitz, c'est le legato, c'est-à-dire dans un choral comme celui-ci où il y a au minimum 3 voix, des basses, une partie médiane et une mélodie. Imaginez là à l'orgue, hein, et à l'orgue il y a 3, 4, 5 claviers, donc on a des sons différents. L'orgue c'est un instrument certes difficile, mais il est beaucoup plus aisé de sortir une mélodie lorsqu'on a un clavier avec un jeu particulier, donc les tuyaux travaillent pour le musicien. Là c'est différent, il y a un seul clavier et puis il y a juste 10 doigts. Et les 10 doigts doivent faire au moins trois parties. Et l'art du contre-chant d'Horowitz, c'est-à-dire l'art de mélanger plusieurs mélodies en faisant ressortir ce qu'il veut, eh bien ça, c'est pas très facile. Écoutons-le dans Bach Busoni, le choral. Thank you. Les grands pianistes de son époque, ses contemporains, ont admiré Horowitz, des pianistes fort différents de lui, qui n'avaient quelquefois aucun point commun. Rudolf Serkin, qui était beaucoup plus introverti, avec une attirance pour un piano, je ne dirais pas plus austère, mais en tout cas, qui ne cherchait pas à magnifier le son du piano, mais à jouer de la musique en cherchant la pureté, eh bien Rudolf Serkin est très, très lié à Horowitz, il l'adorait et l'admirait. Le grand pianiste Rubinstein, qui a été aussi une des stars du XXe siècle, lorsqu'il a écouté Horowitz, s'est dit qu'il fallait qu'il se remette d'urgence au travail, parce qu'il avait une grande facilité pour jouer et pensait que ça suffisait. Mais quand il a écouté Horowitz, il a compris qu'il fallait qu'il travaille son piano. Et d'autres comme ça, puis les pianistes des générations suivantes, Jean-Philippe Collard, Murray Peraya, tous ont admiré Horowitz dans ce que je répéterai, ce que j'appellerais moi sa singularité. Et singulier, peut-être c'est un mot où il faut revenir à l'origine, c'est pas être original, c'est être seul, être authentique, être soi-même. Quand on est singulier, c'est qu'on n'est pas au pluriel, c'est qu'on est soi-même. Et bien Horowitz, il est lui-même jusqu'au bout, et en cela, il est unique parce qu'il a porté cet art de la singularité jusqu'au bout. Alors après, on peut contester, beaucoup de critiques ont critiqué un certain nombre de choses, peut-être même des travers. Il a des travers, Horowitz. Mais enfin, lorsqu'on écoute ses disques, on oublie les travers et on est frappé par le génie. Après cette œuvre, nous allons maintenant écouter une œuvre qui a vraiment marqué, qui est beaucoup plus légère, mais vous allez le voir, c'est étincelant. Cette œuvre, d'ailleurs, c'est une étude qui s'appelle Étincelle, d'un pianiste Moskowski, et que Horowitz a joué beaucoup en bis. C'est une œuvre faite pour briller. Donc après Bach, nous allons écouter quelque chose de brillant.
Après une absence de 61 années, depuis qu'il a quitté sa Russie, sa chère Russie natale, il y revient le 20 avril 86 pour un concert. Il a 83 ans. Il dit « Maintenant, la boucle est complètement bouclée ». Il visite la maison de Scriabine, à qui il avait été présenté très jeune, pour se souvenir, et il sera tiré un disque de ce récital, et même, évidemment, il sera filmé. En 87, il revient en Europe, il donne une sorte de tournée d'adieu, il parcourt toute l'Europe, il va aussi au Japon, et en 1989, il sort son dernier disque, Horowitz at Home, on ne peut pas mieux dire. Et puis, il va décéder le 5 novembre 89 d'une crise cardiaque. Il va être inhumé au cimetière de Milan, dans le tombeau familial. de sa belle famille. C'est le tombeau d'Arturo Toscanini, où son épouse le rejoindra une petite dizaine d'années plus tard. Horowitz était fait pour le concert. Souvent, on a dit que ses concerts étaient bien meilleurs que ses disques, parce qu'il se donnait entièrement. C'était un don total de lui-même à son public. Nous allons l'écouter, après avoir écouté des pièces très très brillantes, bien sûr, et écouter aussi ses listes. Il faudrait peut-être une seconde émission pour faire Horowitz et Liszt. Et nous sommes désolés de ne pas avoir pu faire mieux. Mais écoutons-le dans une toute petite pièce, qui est une pièce de Schumann, qui est tirée de l'œuvre des scènes d'enfants, qui est la rêverie, qu'il jouait beaucoup dans ses récitals et parfois aussi en bis, qui est une pièce qui n'est pas brillante. On sait que Horowitz était en concert fulgurant et hypnotique, si on peut un peu le résumer, si cela est possible. Là, c'est une pièce humble, c'est un rêve d'enfant, c'est Schumann.
Nous avons écouté aujourd'hui Horowitz dans Chopin, un nocturne, Tchaïkovski, le premier concerto avec Toscanini, sa transcription, ou plutôt son arrangement, ses variations sur un thème de Bizet, une sonate de Scarlatti, le troisième concerto, la fin du premier mouvement avec la cadence, le troisième concerto de Rachmaninov avec le chef d'orchestre Zubin Mehta, une étude de Scriabine, un Bach transcrit par Busoni, un choral, étincelle de Moskovski, et nous avons conclu par la merveilleuse rêverie de Schumann. Liszt était absent, mais si Liszt est toujours présent dans les podcasts de l'émission, eh bien nous avions fait une émission sur Liszt au piano, et de mémoire il y avait la 15e rhapsodie, dite Marche de Rakosi, en totale, j'allais dire opposition, c'est pas vrai, mais en totale différence avec ce que nous venons d'entendre de Schumann, puisqu'on ne peut pas être plus brillant et plus violent que la Marche de Rakosi. Eh bien, bon été à tous, et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée avec Mendelssohn, Félix Mendelssohn. À bientôt, au revoir.
À bientôt, au revoir.